romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est qui ou quoi ? Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée sur Radio Audio. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres dont le lien est l'imaginaire, enfin une certaine forme d'imaginaire entre science-fiction et n'importe quoi poétique, un imaginaire qui me parle à moi. On va commencer ce soir par un livre qui n'est pas vraiment dans l'imaginaire, mais qui stimule carrément. C'est une BD et ça s'appelle « Dans la combi de Thomas Pesquet » par Marion Montaigne et c'est paru chez Dargaud. « Dans la combi de Thomas Pesquet » raconte par le menu toute l'aventure qui a mené l'astronaute Thomas Pesquet à passer 6 mois dans la Station Spatiale Internationale de l'ISS. Pour tout vous dire, et vous n'allez peut-être pas me croire, mais jusqu'à il y a encore 4 jours, je ne savais pas à quoi ressemblait Thomas Pesquet. Je savais qui c'était, un astronaute français, mais je crois que je ne l'ai su que quand il est revenu sur Terre. Et en fait, tout ça, je ne savais pas qui c'était parce que c'est rien de le dire, je ne m'intéresse absolument pas à l'actualité des vols spatiaux Terre-ISS au jour le jour. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, l'espace me fait énormément rêver, mais comme je ne vois pas trop ce qu'ils y font, à part peut-être de la propagande comme au beau vieux temps de la guerre froide, sauf que aujourd'hui c'est en mode tout le monde s'aime dans l'espace, et qu'accessoirement ça me donne l'impression qu'on nous donne de quoi nous distraire en regardant l'espace pendant qu'on nous fait des trucs dans le dos sur Terre, eh bien en fait je m'intéresse absolument pas à l'actualité des différentes agences spatiales nationales, et d'ailleurs je ne vois toujours pas en quoi le fait qu'il soit français et dans l'espace est important. Qu'il soit dans l'espace encore, ça va. Mais le reste, bon. Bref, je ne m'étais absolument pas intéressé à Thomas Pesquet avant de lire cette bande dessinée. En revanche, l'auteur, Marion Montaigne, elle, je la connais plus. C'est la dessinatrice d'un BD blog de vulgarisation scientifique qui s'appelle « Tu mourras moins bête ». Même si, comme je vous l'ai déjà laissé entendre dans une émission précédente, je ne suis absolument pas fan des BD blogs, je les trouve en général mal dessinés et vides de sens et d'intérêt, pour le coup, j'ai beaucoup d'indulgence pour celui de Marion Montaigne. Pourquoi ? Parce qu'elle touche à une de mes cordes sensibles, la corde que moi j'appelle « c'est pas sorcier », celle de la vulgarisation scientifique. J'aime beaucoup la vulgarisation scientifique. Je trouve qu'on rejette souvent la science sous prétexte que c'est compliqué parce qu'à l'école c'était chiant. Alors que quand c'est Jamie qui nous l'explique, eh ben on comprend tout et c'est cool. Eh ben Marion Montaigne, c'est pareil, mais en BD. Son blog connu, Tu mourras moins bête, aborde des sujets tels que les règles, la scolarité des plus grands scientifiques de notre temps ou même le lancement des fusées. Elle l'aborde sous un angle scientifique, par le biais de la BD, mais surtout avec de l'humour. Donc en général, c'est drôle et on apprend des trucs. Seul bémol à mes yeux, le dessin. Si j'étais mauvaise langue, j'irais jusqu'à dire que c'est dessiné avec les pieds. Mais bon, j'ai lu dernièrement, ça et là, que Marion Montaigne, le dessin de Marion Montaigne pouvait être comparé à celui de Reiser. Et même si je trouve pas forcément la comparaison pertinente, j'ai quand même un peu revu ma position. Elle a donc un dessin, on va dire, personnel. Donc forcément, en radio, ça se voit pas, mais je vous avoue que je souris un peu en le disant. Donc, un peu avant Noël, est sortie la BD Dans la combi de Thomas Pesquet par Marion Montaigne. Je pensais que ce serait un peu comme son blague, que j'apprendrais des trucs rigolos sur les voyages spatiaux. Alors je l'ai mis dans ma liste de trucs que j'aimerais lire. Mais comme vous pouvez me croire, ma liste est longue. Et puis il y a un mois, la liste des BD sélectionnées pour le Festival d'Angoulême a sorti. Et il était dedans. Je vous ai déjà parlé de cette liste. Donc il est remonté dans ma liste, et puis j'ai finalement réussi à mettre la main dessus, et je l'ai lu la semaine dernière, et en fait, c'est super bien. C'est différent des BD tirés de son blog, c'est toujours, voire plus drôle que les BD de son blog, et on apprend plein de trucs, donc c'est en gros très réussi. Je vais vous lister les points positifs. Donc, je me répète un petit peu, c'est drôle à peu près tout du long. Alors même si l'humour, ça reste un truc assez perso, je pense que c'est suffisamment réussi pour être universel. De deux, dans les autres BD de Marion Montaigne, toujours dans la série d'humour à moins bête, en fait, le format de la BD était imposé par le côté blog, qui est quand même fortement restrictif vu que les BD doivent être lus sur un écran. Donc en gros, c'est une case par une case. Dans celle-là, c'est bien différent, parce qu'on voit que la mise en page a été pensée pour être lue en livre, et ça sied plutôt bien au style de Marion Montaigne. Et j'ai bien conscience que cet argument ne peut toucher que ceux qui ont lu les deux, mais comme j'ai trouvé ça pertinent, je tenais à vous en faire part. Date de longtemps, parce que Marion Montaigne a carrément suivi Thomas Pesquet sur ses lieux d'entraînement avec les astronautes en Russie ou aux États-Unis, d'où un côté authentique qui ressort de toutes les observations de la dessinatrice. Et puis, on va pas se mentir, elle répond à toutes les questions qui nous intéressent au premier abord concernant les astronautes. Comment ils font caca? Comment ils font pipi? Pour ça, il y a vraiment des pages intéressantes, je n'ai pas peur de le dire. On a même du bonus en apprenant que pour faire une sortie dans l'espace, les astronautes sont gavés d'oxygène pendant des heures avant de pouvoir sortir à l'extérieur de la station, et qu'en fait, ça les fait péter. Donc là où nous on voit une espèce de prouesse dans l'espace avec un astronaute qui vole autour d'une station, l'astronaute lui se souvient qu'il l'a fait, et qu'il l'a fait en s'entendant respirer et en arrêtant pas de lâcher des caisses. Entre autres choses importantes que j'ai apprises, en dehors du caca pipi, il y a aussi les changements qu'occasionnent 6 mois d'impesanteur au corps humain, genre que le cerveau n'est plus attiré par l'apesanteur et qu'il se met à flotter dans la boîte crânienne, et donc il peut se mettre à appuyer sur les yeux par derrière, ce qui rend myope et qui fait en fait sortir les yeux des orbites. Alors, on apprend aussi plein de trucs sur l'impesanteur, le pourquoi scientifique de ces voyages dans l'espace, et surtout l'organisation sans faille que nécessitent ces voyages, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un micron d'erreur peut mener à la mort des astronautes, que ce soit dans la fusée de lancement, dans une réparation de la station ou dans leur combinaison tout court. En vrai, d'ailleurs, c'est quand même un peu flippant, 6 mois dans une boîte, au milieu de l'espace, avec un corps qui se détraque en fait, et des risques de partout, fuites d'oxygène, caca qui flotte, et j'en passais des meilleurs. Je crois que pour être astronaute, faut quand même être un peu fou. Pour vous dire quand même comme ça m'a plu, c'est que j'arrête pas d'y penser depuis. C'est pas que j'ai envie spécialement d'être astronaute, mais c'est qu'après l'avoir lu, dès que j'ai pu mettre la main sur un ordi, je me suis enfilé pléthore de vidéos de Thomas Pesquet sur YouTube. Alors effectivement, il y a vraiment un truc de l'ordre du culte de la personnalité autour de lui qui fait quand même un peu flipper. Tout le monde l'aime, il est un peu beau gosse, il est costaud, il a la tête sur les épaules et tout et tout. Tout le monde lui pense quasiment les mêmes questions sur comment on fait caca, etc. J'ai même vu une vidéo dans laquelle il explique qu'il est comme tout le monde et que tout le monde peut tenter sa chance pour aller dans l'espace si on y croit et qu'on travaille. Ouais, n'empêche que quand on voit la tonne de tests qu'ils doivent passer, des trucs vicieux genre retenir une suite de chiffres en 30 secondes et la réciter à l'envers, plus les tests psychologiques, etc., c'est quand même pas donné à tout le monde, et pour le coup, on est vraiment sur un truc de propagande lié à la valeur travail, ou presque. Au final, le seul bémol que j'émettrais, rapport au plaisir que j'ai pu avoir à lire cette BD, ça reste le même que celui que j'ai évoqué au tout début, c'est le dessin de Marion Montaigne. Comme je vous l'ai dit avant de lire la BD et d'aller sur YouTube, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait Thomas Pesquet. Je pensais qu'il avait la tête aussi large que le cou et des couilles au menton comme sur la couve de la BD. Et en fait pas du tout, il est bien plus beau. Bon, c'est un choix artistique, mais franchement, je ne sais pas si c'est réussi et le dessin dessert un petit peu le propos. Après, ça reste une histoire de sensibilité bien sûr. Moi j'aime pas, mais je l'ai lu jusqu'au bout et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'est vraiment un tout petit bémol. Je vais revenir, avant de clore cette petite chronique, sur l'impesanteur. Donc il ne parle pas d'apesanteur, mais il parle d'impesanteur dans le livre. Apparemment, donc l'explication, c'est que la station ISS, elle tourne autour de la Terre comme si elle allait tomber sur la Terre, mais comme la Terre tourne à une certaine vitesse, que la station tourne aussi, bah en fait, elle ne se rencontre jamais et la station tombe sans fin. Et c'est pour ça qu'ils flottent dans la station et qu'ils peuvent recréer cette espèce de flottement dans un avion qui tombe sur la Terre pour s'entraîner. Mais moi, ça me pose une question, parce que si la station ne tourne pas autour de la Terre et qu'elle part vers une autre planète, est-ce que là, on parlerait vraiment d'apesanteur ? Après, un truc qui n'est pas du tout abordé, c'est le quid de la sexualité dans les étoiles. Je vous passe les détails, mais pour le coup, ben, je me suis posé la question. Mais surtout, surtout, comme le dit Ridley Scott, est-ce que dans l'espace, personne ne vous entend crier ? It's a dollar or two. Just tell me how many for you this time. This time. This time. This time. Sex packets, the girl of your dreams. Just try one, it's not what it seems. This love. This love, this love, this love. Now it's just sex and a pill. It gives me such a thrill. It's nice. And it's a guy for a girl. Try one tonight. Now I just can't wait till I get home tonight. I cop three for $10.99. No sex can be safer. It's a pill wrapped in a little piece of paper. Real nice. Sex packets, a dollar or two. Just tell me how many for you this time. This time. This time. This time. Sex packets, a one or a two. I just saw them, I cannot do this love. This love. This love. This love. Oh, oh, girl. You look so good to me. You're fine. And oh, oh, girl, you whispered in my ear, said not tonight. You just won't get with me, and you think that you dissed me, but now I can still be getting busy with any girl I like. Have to jack it, 'cause instead I can just take a packet. Real nice. Sex packets, a dollar or two. Just tell me how many for you this time. This time. This time. This time.
this time. I'm not giving what you hold, I'm just giving to your love, and I'm feeling what you need. Uncontested ecstasy. Yeah, you got it. No, hold it like this. Now just put it in your mouth. There you go, there you go. Just let it hit you, baby.
Sex bites, another two. Just tell me how many for you this time. This time. This time. This time.
It's like nothing I've ever had. C'était Digital Underground avec Sex Packets, que j'ai un peu coupé sur la fin parce que sinon c'est un poil trop long. Mais pour la petite histoire et pour ceux qui ne savent pas, le groupe avait appelé ce morceau Sex Packets en rapport avec des pilules développées par la NASA dans les années 90, pilules à destination des astronautes pour qu'ils aient quand même des orgasmes dans l'espace. Une pilule égale un orgasme. Et j'avoue que je me demande s'ils en ont fourni à Thomas Pesquet ou si ça reste une légende urbaine. Mais de toute façon, ils n'en parlent pas dans le livre. Donc il me reste plus qu'à essayer d'être astronaute pour savoir si ça existe vraiment. Le deuxième livre dont je vais vous parler, ça s'appelle « La croisade de l'idiot » de Clifford D. Simak. Là, pour le coup, on est dans la science-fiction pure et dure, mais à l'ancienne. Clifford D. Simak, c'est un auteur reconnu de l'âge d'or de la science-fiction, parce qu'il y a un âge d'or de la science-fiction, je l'ai appris en préparant l'émission. D'après Wikipédia, ça se situe entre 1920 et 1955, et perso, ben, j'aurais jamais cru que c'était à cette époque-là. J'aurais plus vu ça dans les années 60-70, mais comme en fait, je ne sais pas vraiment ce qu'ils entendent par âge d'or, moi je situais ça autour de dates de classiques de la science-fiction, genre Les robots d'Isaac Asimov, qui date de 67, Le maître du haut château de Philippe K. Dick, qui date de 1962, ou encore Dune, de Frank Herbert, qui date de 1965. Mais en fait, non. Apparemment, l'âge d'or, c'était avant, et même si certains auteurs dont je viens de parler y ont participé, on n'est pas du tout dans les années 60, mais bien avant, 1920-1950. Clifford D. Simak, ou Simak, je ne sais vraiment pas comment le dire, je dis Clifford D. Simak, enfin bon. Lui, je le connais, je le connaissais de nom, parce que dans la bibliothèque de mes parents traînait son recueil de nouvelles Demain les chiens, à côté des robots d'Asimov justement, et d'un roman de Robert Silverberg, ou du Cristal qui songe de Théodore Sturgeon. Mais je ne l'avais jamais vu, il faisait partie de la longue liste des livres à lire dont je vous ai parlé au début de l'émission. La croisade de l'idiot n'est plus éditée. On me l'a prêté il n'y a pas longtemps en me disant qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'aussi bonne science-fiction. Je ne m'attarderai pas sur ce point parce que je suis très 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 loin d'être un spécialiste, à part que maintenant, ben, je sais qu'il y a un âge d'or. Donc je vais vous parler de celui-là, moi, La croisade de l'idiot. C'est un recueil de 7 nouvelles, un format typique de la science-fiction au passage, les nouvelles. On est loin de la science-fiction à la Star Wars qui fait un peu office de standard aujourd'hui quand on parle de science-fiction, alors que au final c'est quand même bien plus vaste que ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on parle plus trop de science-fiction mais des littératures de l'imaginaire et pas de la science-fiction, qui avant englobait un peu tout et qui est aujourd'hui réduit à un seul style en particulier. Pour le coup ici, on est vraiment dans l'imaginaire. Quasiment aucune de ces nouvelles ne se passe dans l'espace. Elles trouvent leur cadre en général dans une petite bourgade tranquille des USA. Et c'est un détail de la vie de tous les jours qui va changer et faire basculer le quotidien dans la science-fiction ou l'imaginaire si vous préférez. La première nouvelle voit un idiot du village découvrir qu'il a un pouvoir, le pouvoir de voir à l'intérieur des gens et d'influer sur le fonctionnement de leur corps ou de leurs sentiments. Que va-t-il en faire ? La seconde nouvelle, c'est un homme qui découvre qu'un tiroir de son bureau lui permet d'échanger des objets avec une autre dimension. Et qu'est-ce qu'il va en faire ? Et bon, il y a quand même des histoires d'extraterrestres et même une histoire de vaisseau qui tombe amoureux de plusieurs êtres humains. Il y en a pour tous les goûts. J'ai lu que Clifford D. Simak venait d'un milieu bien rural des USA, qui explique pour le coup le contexte dans lequel se passent plusieurs des nouvelles de ce livre. Au niveau de la qualité, enfin au niveau du contenu, j'ai trouvé que c'était particulièrement bien écrit. Le format nouvelle, le rythme, les histoires sont vraiment très bien maîtrisées. Et c'est vrai que je comprends assez bien pourquoi il fait partie des auteurs classiques de la science-fiction, parce que même si c'est pas le plus connu aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais on sent que ces livres à l'époque n'étaient pas forcément relégués à un type de public à un public type geek. Il y a un souffle et une fraîcheur qu'il n'y a plus forcément aujourd'hui. Mais bon, peut-être que je le fantasme. Au final, je pense que ce livre est un petit peu anecdotique, mais j'ai beaucoup aimé le lire. Et ça m'a quand même conduit à en rajouter un à ma liste, Demain les chiens, qui est un de ses classiques, voire son classique, qui lui est encore édité. Et puis en vrai, je vous encourage à faire de même, parce que la science-fiction, c'est super bien. Les auteurs issus de l'âge d'or de la science-fiction aussi, et Clifford D. Simak, ça le fait à fond. Ocean. Ocean is a voyage.
This is a voyage.
Ocean is a voyage.
This is a voyage. A long, long voyage.
Going up, up, up. Going down, down, down. Going up, up, up. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. The dull dead wind is out of tune. And like a withered leaf, the moon is blown across the stormy bay. Going up, up, up. Going down, down, down. Going down, 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 like silhouettes against the sky.
going down, 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 like silhouettes against the sky. Going
de retour dans Qui ou quoi, l'émission de chronique de livres sur Radio Audio. On vient de s'écouter un morceau d'Hector Zazou tiré du disque Chanson des mers froides. Titre dont je ne me souviens plus, mais c'est John Cale et Suzanne Vega qui chantaient. Le dernier livre dont je vais vous parler, ça s'appelle « Catalogue d'objets introuvables » de Jacques Carelman. Et en fait, je vais un peu plus vous parler de Jacques Carelman que du livre. Je me suis trompé de disque, super. Jacques Carelman est un dessinateur peintre que j'ai connu grâce à la revue « L'Éprouvette » éditée par la maison d'édition de BD L'Association. Dans le troisième et dernier numéro de L'Éprouvette, il y a une interview de Jacques Carelman. Quand il a sorti ce numéro, j'ai découvert un dessinateur dont je n'avais jamais entendu parler, mais de ce que j'en comprenais, qui de ce que j'en comprenais ne faisait pas bande dessinée, mais qui avait l'air d'être assez fort et intéressant. Je le dis comme ça un peu pauvrement parce que je n'arrive pas vraiment à trouver une autre tournure. Apparemment, il avait commencé dans les années 60, il avait rencontré Raymond Queneau, avait participé à Loupimpo, l'ouvroir de peinture potentiel, cousin de Loulipo. Il s'agissait de regrouper des mathématiciens et des peintres pour définir des règles contraignantes pour exécuter des peintures. Dans la revue d'ailleurs, il y a des reproductions d'une peinture issue de justement cet atelier, Loupimpo. Et en fait, la peinture, quand on la tourne de 90 degrés, on découvre un nouveau dessin. Donc c'est une peinture à 90 degrés, je ne me souviens plus comment elle s'appelle. J'avoue que je suis particulièrement fan de ce genre de jeu de création. Je ne suis pas sûr que le résultat soit toujours à la hauteur de l'idée, mais j'adore ce jeu de l'esprit. Il a réalisé plusieurs livres qui se sont quasiment tous ramassés lors de leur sortie et qui s'achètent aujourd'hui à prix d'or. Une espèce de génie méconnu. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre quelqu'un parler de précurseur. Tous ces livres se sont ramassés donc, sauf le catalogue d'objets introuvables, le livre dont je vous parle ce soir, qui, comme ce nom l'indique, est un catalogue d'objets. Sauf que les objets en question sont complètement improbables, poétiques et rigolos. Et ou rigolo d'ailleurs. Un vrai trésor d'imagination qui aère la tête et donne le sourire. Exemple, un feu tricolore pour toilette, un verre à deux compartiments ou un fil à couper le beurre électrique. Il y a même dans le livre un seau à château de sable. J'ai essayé de vous trouver des exemples qui ne m'obligeaient pas trop à les décrire avec des noms assez parlants parce qu'en fait les décrire sont carrément impossibles. Par exemple, la couverture présente une cafetière dont la anse et le bec verseur sont du même côté. Impossible de verser donc. On est vraiment sur de l'absurde. C'est moi ce que j'appelle de la poésie d'objet. Le livre est très beau. Tous les dessins sont complètement fous. Enfin, même si dans l'exécution, c'est pas, y a pas de quoi non plus s'extasier. Vraiment, les idées qui ressortent de tous les objets sont toujours réussies. Personnellement, j'adore m'y replonger et picorer dedans des objets que je n'aimerais surtout pas avoir, mais que j'adorerais voir en vrai dans des vitrines. Cerise sur le gâteau, le livre est dédicacé au catalogue de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, et je tenais à le signaler. Une dernière anecdote pour essayer de vous situer Jacques Carelman et vous donner envie d'aller voir ce catalogue d'objets introuvables. C'est lui qui a dessiné l'affiche de mai 68 avec le CRS, marqué CRS-SS. Et dans l'interview de l'éprouvette, il explique que Michel-Edouard Leclerc avait détourné l'affiche pour en faire de la pub pour ses magasins et il s'était alors plaint du fait que Jacques Carelman avait accepté de mettre l'affiche à disposition moyennant finance. On pourra toujours discuter du fait que Jacques Carelman ait accepté, mais je pense sincèrement que dans l'histoire, c'est pas Jacques Carelman le plus cynique ni le plus honteux. Mais bon, ça, on le savait déjà. Je vous encourage vraiment à lire feuilleter, à regarder le catalogue d'objets introuvables et essayer de lire l'interview de cet homme dans l'éprouvette. Parce que vraiment, vraiment, cet homme n'est pas assez connu. Qui ou quoi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle les trois livres dont on a parlé, enfin dont j'ai parlé. Dans la combi de Mathieu Pesquet, de Thomas Pesquet, par Marion Montaigne chez Dargaud. La croisade de l'idiot de Clifford D. Simak, c'est Présence du futur, mais je crois que c'est plus édité. Et le catalogue d'objets introuvables de Jacques Carelman chez l'éditeur Le Cherche Midi. On se retrouve dans deux semaines sur Radio Duo à la même heure, à 21h. Cette fois, on parlera pas de livres. Pour le coup, je sais ce qu'on va faire. On recevra les fondateurs et dessinateurs de l'IMAX Édition, éditeur stéphanois qui fait de la bande dessinée sous contrainte, pour le coup, des cadavres exquis. Ils devraient normalement tous venir en studio dans deux semaines. Et je suis très impatient. En attendant, vous allez retrouver le mix de Radio Duo après l'émission et à 10h, si tout va bien, l'émission comme à la Radio Duo qui viendra pour finir votre soirée. En attendant, bonne soirée sur Radio Duo et à dans deux semaines en ce qui me concerne.